Gamer Radio Spuntus.
Gamer Radio.
Gamer Radio.
Gamer Radio.
Gamer Radio.
Un quartier.
Une vue.
Du rythme et des infos.
De la bonne humeur.
Sur Brest et ailleurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur Gamer Radio. Aujourd'hui, on enregistre notre 4e édition. On est le 13 février et on est nombreux autour de la table. Il y a moi-même, Anne, médiatrice culturelle à la MPT du Galmeur. Je suis avec Marie-Jo, Natacha, Stéphane, France, Clarisse, Olivier, Quentin de Radio U et Denis à la technique. Et aujourd'hui, nous avons un invité, Gwendal Kiger. On va commencer tout de suite avec une interview de Gwendal. Gwendal, il est conseiller municipal à la participation citoyenne à la ville de Brest et on va tous lui poser quelques questions sur son travail.
Bonjour, je voulais savoir en quoi consiste ton travail d'élu.
Alors, rien que le terme de travail d'élu, c'est un peu particulier, c'est une fonction et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on découvre au début. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre finalement quand on arrive là-dedans. C'est quoi le rôle d'un élu? Parce qu'il y a des techniciens qui, eux, vont faire le travail. Mmh. Et finalement, nous, quand on est élu, bon, à quoi on sert, pourquoi on est là? Et au final, on découvre au fur et à mesure que nous, on est là pour finalement... Impulser les idées. On a été élu sur un programme et donc l'idée, c'est de le faire appliquer derrière. Donc nous, on va voir les techniciens qui ont déjà pas mal de choses à faire, donc il ne faut pas non plus trop charger la barque. Mais l'idée, c'est d'aller voir avec eux et dire, bon, bah, nous, on s'est engagé sur ce programme-là. Et donc, comment on fait pour y arriver? On avait pensé ça pendant le programme. On n'applique pas forcément toujours exactement parce qu'on se rend compte après que finalement, en discutant avec les gens, bah, l'idée qu'on avait eue, c'est peut-être pas forcément la meilleure. Donc, on va changer un peu. Mais l'idée, c'est ça. C'est à la fois aller discuter avec les services pour mettre en place les choses. Ça va être aussi échanger beaucoup avec, soit avec les citoyens, soit avec des acteurs représentés, des réunions techniques sur un certain nombre de sujets, et puis après aussi communiquer sur son action, montrer que on n'a pas été élu pour rien et qu'on fait aussi des choses. Voilà à peu près en quoi ça consiste.
Et donc, ça te prend pas mal de temps. T'as un boulot à côté ou pas?
Ouais, j'ai eu... Alors, c'est long, un mandat. Hein. Un mandat, c'est 6 ans. Hein. C'est pour ça que c'est un engagement aussi quand même assez important. Avant de se lancer là-dedans, faut être bien sûr de soi. Donc, en 6 ans, j'ai eu pas mal de boulots différents parce que justement, au début, je savais pas combien de temps ça allait me prendre. Et donc... Donc c'était pas forcément simple et au fur et à mesure on voit à peu près combien de temps ça nous prend. Moi je dirais que en moyenne ça représente entre 5 et 10 heures par semaine qui vont être réparties sur des réunions le midi parfois en soirée. Après chacun s'organise. Moi je suis conseiller délégué, c'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de responsabilité quand on est élu. On peut être juste conseiller où là on a juste à se rendre finalement en commission puis au conseil municipal. On peut être conseiller délégué comme moi, c'est-à-dire que c'est un peu le niveau d'au-dessus, on va dire, mais on n'est pas vraiment en responsabilité non plus. C'est pour ça que ça ne me prend pas tant de temps que ça. Et puis après, il va y avoir les adjoints à la ville ou les vice-présidents à la métropole, où là, c'est ce qu'on appelle l'exécutif. Donc, eux, il y a vraiment des services qui bossent pour eux, ils gèrent des budgets, c'est beaucoup plus important. Et là, en général, les gens, ils passent... on va dire, c'est l'équivalent d'un mi-temps, quoi, au moins. Après, chacun gère un petit peu comme il peut, mais c'est à peu près ça, quoi.
Et tu touches une indemnité?
Tout à fait. Donc ça, les indemnités, ça va dépendre de la taille de la commune. C'est pour ça que je trouve aussi assez remarquable les élus dans les petites communes. Et on voit bien que c'est assez compliqué de trouver des candidats. Il y avait des articles encore là-dessus sur Molène, par exemple, où ils galéraient à trouver des candidats pour aller à la mairie. Parce que dans les petites communes, on a très peu d'indemnités, on n'a pas des gens qui vont nous aider à bosser sur les dossiers, on a peu de services, tandis qu'à Brest, on a de la chance, on est une grande ville, donc on a des indemnités, on a des collaborateurs, collaboratrices de groupe, donc nous, chez les écologistes, on a des gens qui nous aident à travailler sur les dossiers, on a des services aussi, donc c'est quand même assez confortable. Et en termes d'indemnités, quand on est juste conseiller simple, ça doit être aux alentours de 200 euros et quelques. Moi, conseiller délégué, c'est à peu près un peu moins de 900 euros par mois. Quand on est adjoint ou vice-président, c'est environ 2500 euros. Et quand on est maire, je n'ai pas en tête, mais ça doit être Ouais, 4-5 000, ouais, je dirais, un truc dans le genre. Et puis après, chaque parti a a ses règles, c'est-à-dire que pour financer les partis politiques en France, il va y avoir les adhérents qui vont donner de l'argent, l'État qui va donner de l'argent en fonction du score qu'on a fait aux législatives, et les élus, quasiment tous les partis fonctionnent comme ça, les élus qui vont reverser une partie de leur indemnité à leur parti. Parce que s'ils ont été élus, c'est pas que par rapport à leur belle gueule, c'est aussi par rapport à leur étiquette. Et donc, nous, chez les écologistes, on a une grille de reversement. Et moi, par exemple, je reverse 10% de mes indemnités à mon parti.
Je te remercie.
Ben, y a pas de quoi.
Deux questions de Natacha.
Donc moi, j'ai une question pour vous. En tant que conseiller municipal en charge de la participation citoyenne à la ville de Brest, je vais partir d'un constat général. On observe que l'enjeu du vieillissement de la population gagne en visibilité auprès des décideurs, mais il reste peu intégré dans les priorités politiques. C'est pas moi qui le dis, c'est la fondation Jean Jaurès. Dès lors, la question de la place de nos aînés dans la société se pose. Les personnes âgées ne sont pas, voire sont peu présentes dans l'espace public, dans l'espace politique. Donc là, si on revient à Brest, est-ce que vous avez réfléchi à la place des personnes âgées dans les dispositifs participatifs?
Pas spécifiquement à la place des personnes âgées dans les dispositifs participatifs. Sur la place des personnes âgées en politique, je dirais pas forcément ça, hein. Nous, on a pas mal de retraités aussi qui sont élus, parce que justement, quand on est retraité, on a un peu plus de temps, hein, donc là-dessus, ils sont plutôt bien représentés. Après, dans les instances de participation, aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle, au fait, sur les instances de participation. On n'arrive jamais, là, par exemple, vous parlez des personnes âgées, mais au fait, il y a un des soucis aussi sur les instances de participation, ça va être de réussir à capter on va dire, des classes d'âge entre 35 et 50, on va dire, qui ont des enfants et qui ont leur travail. Et au fait, on n'arrive jamais à les avoir sur les instances de participation parce que finalement, bon, bah voilà, ils ont leur vie, ils ont leur gamin. C'est très compliqué de réussir à se libérer pour aller un soir, justement, à une réunion participative sur le réaménagement de la place. Voilà, c'est franchement pas évident. C'est plus ce genre de catégorie où des gens qui sont très détachés de la politique, au fait, voilà, c'est plus eux qui sont difficiles à capter. Finalement, les personnes âgées, alors après, il faut voir quelles personnes âgées aussi. Quand on fait des grandes catégories comme ça, bon, bah, on met tout et rien dedans. Là, c'est juste sur une question d'âge. Donc, parce que finalement, des personnes âgées sur nos instances de participation, on en a. Et j'ai même envie de dire, ils sont plutôt surreprésentés par rapport au reste de la population.
Et donc, j'avais une deuxième question plus précise par rapport au budget participatif. Concrètement, qui peut être jury du budget participatif?
Il y a pas de jury au fait au budget participatif. C'est ça qui est assez intéressant. Il y a un comité de suivi qui s'assure que le règlement est bien respecté. Voilà, qui est composé de citoyens où les personnes peuvent candidater et ensuite elles sont tirées au sort parmi les candidats. Mais par contre, l'ensemble des projets peut être déposé par n'importe qui à partir du moment où vous êtes brestoise ou brestois. Voilà. Et ensuite, il y a une étude. On vérifie sur la première phase que ça respecte bien le règlement, justement. Voilà, on n'est pas sur la faisabilité ou autre, juste est-ce que ça respecte le règlement. Après, il y a une première phase de vote. Et sur les 70, à peu près 70 projets qui arrivent en tête, là, les services techniques vont vérifier la faisabilité technique et chiffrer le projet pour ensuite passer à la phase, à la dernière phase de vote final pour désigner le budget. Et c'est les citoyens qui choisissent. Et à aucun moment, il y a un jury ou même un contrôle de la part des élus. C'est le vote final des habitants qui décide des projets qui vont être réalisés dans le cadre du budget participatif.
J'ai une question justement sur les votes du budget participatif. Est-ce que vous arrivez à savoir si justement il y a beaucoup de personnes âgées qui votent?
Non, on n'a pas du tout cette donnée-là. On n'a pas cette donnée-là parce qu'on ne demande pas, on demande pas l'âge, au fait, tout simplement, quand on vote. Ce qu'on peut peut-être essayer de voir, c'est qu'on a un double système de vote, c'est-à-dire qu'on a un vote en numérique et un vote en papier. On peut se dire que les personnes âgées vont peut-être plus facilement vers le vote papier et le vote papier marche bien. Le vote papier marche très bien et c'est assez intéressant de voir justement certains projets aussi. Ça varie énormément en fonction des projets, la part du vote numérique et la part du vote papier à l'intérieur. Voilà, donc je pense que je ne sais pas véritablement, en fait, on pourrait essayer de chercher un petit peu si c'était une question qui nous intéressait. Je pense que ça fonctionne. En tout cas, le budget participatif au global fonctionne bien. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais globalement, il y a énormément de Brestois qui participent à chaque fois. Et moi, je trouve que c'est quand même quelque chose de... C'est un vrai beau succès, au fait, en termes de participation. Quand je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de solution miracle, et c'est vrai qu'on galère à chaque fois sur la participation, on renouvelle en permanence, on teste, on se dit... Bon, ça n'a pas marché, on va tester autre chose, voilà, et on va voir ailleurs ce qui se fait en France, et finalement, personne n'a la solution magique, mais le budget participatif fait vraiment partie des trucs qui marchent vraiment bien, et quand on voit que la participation aux élections elle baisse systématiquement d'année en année, bah, le budget participatif, on voit qu'il y a quand même une bonne participation de la part des Brestois sur ce dispositif-là.
J'ai une autre question.
On est là pour ça.
En tant qu'habitant de Saint-Marc, est-ce que vous avez soutenu les projets qui ont été proposés sur le quartier ?
Bien sûr, bien sûr. Évidemment, moi j'ai mes petites lubies. Moi, en effet, les projets à côté de chez soi, comme tout le monde le fait un petit peu, hein, et puis après, moi, tous les projets qui concernent aussi la mobilité à vélo et la mobilité à pied, c'est des sujets qui m'intéressent. Donc, je favorise cela en priorité, bah, surtout sur le premier vote où on peut voter pour tous. Donc, ça met un peu de temps. Parce que quand on veut vraiment tous les regarder et voter pour tous ceux qui nous intéressent, j'en ai voté pour, je sais plus, 95, je crois, un truc dans le genre, donc c'était un peu fastidieux, mais ouais. Et après, pour le deuxième vote, où on peut que en choisir quelques-uns, là, je garderai mon vote secret.
Du coup, comme on parle de mobilité, je vais passer la parole à France. Tu avais des questions à ce sujet.
Du coup, au niveau de la mobilité, donc les rues à Saint-Marc sont très étroites. Pensez-vous qu'il serait possible, au niveau de la rue de Verdun, là, de créer des pistes cyclables ?
Alors, ça demande des études techniques. C'est ça que j'expliquais un petit peu aussi tout à l'heure, la différence entre un élu et un technicien. C'est-à-dire que quand on est élu, on donne la volonté politique et après, les techniciens vont vous dire bon, bah là, c'est possible, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et puis après, ça va être des choix politiques. Donc, moi, je pense. Alors, est-ce que c'est souhaitable ou pas ? Je sais pas. Je sais pas s'il faut la faire rue de Verdun ou sur une autre parallèle. Sur la route de Quimper, est-ce qu'on a besoin d'avoir des bons aménagements cyclables rue de Verdun? Si on en a des suffisamment bons rue de Quimper, je suis pas sûr non plus. Donc c'est ça qu'il faut un petit peu regarder.
Il y en a, je crois, déjà rue de Quimper.
Il y en a, voilà, qui peuvent être un petit peu améliorés.
Oui.
Donc voilà, c'est quelque chose. En tout cas, là où il y a une volonté, il y a un chemin quelque part, j'ai envie de dire. S'il y a vraiment une volonté, on peut le faire. Mais c'est juste que cet exemple de la rue de Verdun, mais comme d'autres rues, c'est juste. Il n'y a pas la place pour tout. Donc, il faut faire des choix. Donc, il faut arbitrer. S'il n'y a que 20 mètres de façade à façade, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que s'il y a des arbres, est-ce qu'on les garde ? Est-ce qu'on les supprime ? S'il y a des trottoirs, on les diminue ou on les rallonge ? Le stationnement, et c'est là-dessus surtout où, en général, ça va à choper. C'est-à-dire que, bah, oui, si on veut des trottoirs plus larges, si on veut des aménagements cyclables, il faut accepter d'avoir des places de stationnement en moins. C'est là où ça devient assez compliqué. Et là, bah, c'est là où on fait de la politique, quoi. C'est-à-dire qu'on va discuter avec les gens et puis on essaye de voir et trouver la moins pire des solutions, quoi. Voilà, c'est ça.
C'est vrai que dans la rue Saint-Marc, entre l'Octroi et le bourg de Saint-Marc, avec la ligne de bus, c'est chaud quand même quelquefois.
Ouais, c'est assez compliqué. Et puis l'état de la route aussi, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des poids lourds qui circulent sur une route, une route s'use 10 000 fois plus vite avec un poids lourd qu'avec une voiture, en fait. C'est une courbe exponentielle, vraiment, ouais. Quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a l'état de la route. Donc, il faut ralentir. Mais sur la rue Saint-Marc, par exemple, ça serait complètement envisageable d'avoir des aménagements pour ralentir un petit peu les vitesses. C'est suffisamment large aussi pour avoir des aménagements cyclables de qualité à cet endroit-là, je pense.
Et quand on marche dans la rue, mettons, Saint-Martin, tout ça, on voit qu'il y a des pistes cyclables sur un moment, puis tout d'un coup, elles s'arrêtent.
Ouais.
Y a-t-il une solution? Parce que les vélos, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent sur la rue ou est-ce qu'ils montent sur le trottoir?
Bah là, du coup, je vais un petit peu te changer de casquette, hein, si vous voulez bien, mais plutôt
Comme vous voulez.
parler en tant que candidat, quoi, parce que c'est un peu ça la difficulté aussi, c'est que je suis élu, mais là, on présente aussi un programme, et justement, moi, ça fait partie des trucs que je porte et que j'ai beaucoup porté dans la construction de ce programme. C'est ça, justement, quoi, c'est mettre fin aux discontinuités cyclables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, à Brest, on faisait des aménagements cyclables par opportunité, c'est-à-dire qu'on refaisait la voirie, parce qu'on refaisait des réseaux, parce qu'elle était trop défoncée ou toute autre raison. Et du coup, à cette occasion, OK, on va faire un aménagement cyclable, mais sans penser vraiment à un réseau global, cohérent et continu. Ce qui fait que, bon, bah, c'est bien, on a avancé, on a eu plein de petits bouts partout, mais plein de petits bouts, ça ne fait pas un déplacement sécurisé. Au contraire, parfois, ça peut être plus dangereux,
Plus dangereux.
parce que finalement, les voitures, elles vont circuler en se disant, oh, bah, c'est bon, il a son aménagement, et pas se rendre compte que l'aménagement s'arrête. Moi, quand je travaillais à Brest à pied vélo, la rue Bruat, par exemple, à Saint-Martin,
Ouais.
on a un aménagement cyclable, les voitures, et elles peuvent tourner à droite et venir couper, et parce que la bande cyclable finalement s'arrête, et c'est super dangereux à ce moment-là. Donc là, ce que j'ai envie de porter pour le prochain mandat, c'est justement d'arrêter de réfléchir comme ça et de se dire maintenant le vélo c'est important. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent en vélo, il y a beaucoup de gens qui ne se déplacent pas en vélo parce que justement ils trouvent ça beaucoup trop dangereux, et que c'est ces personnes-là qu'il faut aller chercher. Et pour ça, il faut mettre fin justement à ces discontinuités.
Ouais, merci.
Voilà, moi j'ai d'autres questions. Et surtout sur la mobilité des plus fragiles. Comment faire, par exemple, au feu, dans les grandes rues, pour que la possibilité de la personne en difficulté ait le temps de passer avant que le rouge n'intervienne?
Ouais. Bah, ça, faudrait voir exactement sur les temps de passage. En fait, ce qu'il faudrait faire dans un premier temps, en fait, c'est aller sur le terrain avec des personnes pour se rendre compte des difficultés. Ça, c'est la première chose que tous les élus devraient faire, et que une bonne partie font aussi, hein. C'est finalement faire du terrain, se mettre à la place des gens. Quand on veut faire des choses pour les gens, il faut le faire avec eux, au fait, quoi. Donc, moi, ce que je dirais, c'est d'aller avec vous pour s'en rendre compte. Après, sur la question des feux, moi, il y a quelque chose que j'aimerais bien mettre en place qui existe dans certaines ville ailleurs, ça serait d'avoir des décomptes, des chronomètres au fait sur les feux, et rien que ça permet justement aux personnes qui mettent du temps à traverser pour différentes raisons, parce que c'est des personnes âgées, parce que c'est des personnes aveugles,
Ou
aveugles elles
réduite.
le verront pas, mais en tout cas à mobilité réduite, de voir justement, d'estimer et de se dire, ah bah là je sais qu'il me reste 15 secondes, donc je peux le faire ou ne pas le faire. Et il y a une autre des possibilités aussi qui va être sur des traversées qui sont assez longues, c'est de mettre en place des îlots de protection intermédiaire. Et c'est de se dire, on n'a pas toute la traversée à faire d'un coup, c'est des choses qui ont commencé à être faites d'ailleurs un peu partout, hein. Et c'est de se dire, OK, on peut la faire en deux étapes avec un îlot protégé au milieu.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que on le fait avec les personnes. Moi, j'attire quand même votre attention sur le fait que on a fait des travaux dans la ville de Brest, beaucoup. On ne nous a pas interpellés ni associés. Et ça, je regrette beaucoup parce que, comme vous avez dit au tout début, il y a plusieurs catégories de personnes âgées. C'est vrai, mais il y a celles qui ne sortent plus parce que dangereux la ville. Alors, je souhaite, moi, qu'on redonne la parole aux personnes âgées de 80 ans et plus, pour qu'on travaille avec vous, que l'on soit associé. Voilà ce que je demande.
Bah, je partage. Après, moi, c'est pas des politiques publiques que je portais, mais voilà, il y a le il y a aussi il y a eu pendant le mandat le projet Ville Amis des Aînés, qui a essayé d'aller dans ce sens-là. À mon sens aussi, il y a le CLIC aussi, il y a tout un tas de dispositifs avec l'ORB, voilà, pour essayer d'associer les personnes âgées. Alors peut-être que ça n'a pas été fait suffisamment, peut-être, hein, voilà. Et dans ce cas-là, faudra très certainement essayer d'améliorer ça. Mais en tout cas, oui, moi, je suis persuadé qu'il faut réussir à travailler avec tout le monde. La difficulté, ça va être sur les personnes, justement, que vous avez identifiées comme isolées, isolées et qui sont chez elles, qui soit ne peuvent pas sortir parce que, justement, en difficulté de mobilité ou ne veulent pas, en peur. Bon, bah, déjà, il faut réussir à... Il y a tout un travail de diagnostic, d'identifier ces personnes, savoir qui est... Parce que si plus ça va, plus elles perdent, justement, du lien social, quoi. Donc ça, c'est un véritable enjeu.
Vous ouvrez un chantier, là. Vous ouvrez un chantier dans ce sens que, eh bien, ici, on abrite le réseau voisinage. Hein, et on se rend compte, d'une année sur l'autre, que les gens vieillissent et vieillissent seuls chez elles. Nous avons de grosses difficultés à faire sortir les gens de chez elles. Donc, moi, j'ai interviewé certaines personnes et elles m'ont dit « On est trop fragile pour la ville aujourd'hui. » Alors, est-ce qu'une ville comme Brest ne peut pas réfléchir avec les personnes pour savoir de quoi elles ont besoin ?
Ouais, non, mais tout à fait. C'est vrai que derrière ça, peut y avoir plein de réalités. Au fait, on ne sait pas ce que ça recouvre, ce qu'elles veulent dire véritablement à travers ça et ce qu'on peut faire pour y arriver. En tout cas, je pense que ça fait partie des enjeux essentiels. Enfin, je veux dire, c'est ça tout l'enjeu finalement quand on est élu, c'est aussi de s'occuper de ceux qui sont les plus fragiles, les plus faibles. Et sur les aménagements des espaces publics, pour rester sur les questions de mobilité, parce que ça ne recouvre pas votre question et les remarques ne recouvrent pas que des questions de mobilité. Sur les questions de mobilité, nous, notre enjeu, c'est de réussir à mettre en place une ville à hauteur d'enfants. Parce que nous, on estime que quand on fait une ville qui est faite pour les enfants, et du coup, elle est faite pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap, parce que si on fait attention à ça, c'est-à-dire que si on met des trottoirs plus larges, si on met plus de passages piétons, si on fait attention à dégager justement aussi au croisement, de ne pas avoir de voiture pour bien dégager la visibilité, si on met plus de végétation, si une rue est faite pour les enfants, elle sera plus agréable pour tout le monde. Donc ça fait partie des enjeux qu'on a vraiment envie d'identifier. Après, pour réussir à sortir les personnes de chez elles, en effet, il faut identifier clairement quels sont les freins. Est-ce que c'est des freins de mobilité? Auquel cas, comment on peut les lever? Il y avait un projet justement qui est porté par BAPAV de triporteur, où là, moi je le sais, pour l'avoir porté et pour l'avoir fait aussi, hein, on le fait tourner surtout pas mal à Bellevue, on a clairement certaines personnes qui ne feraient pas de déplacement, au fait, si nous, on n'était pas là pour aller les chercher, pour les amener, que ça soit faire leurs courses, aller voir le médecin, ou même pour des loisirs aussi, quoi. Voilà. Donc, ça peut-être être une solution. Après, c'est toujours pareil. Il y a les enjeux financiers. Qui va payer? Qui va piloter? Comment on va organiser le service? Ça, c'est toujours aussi l'enjeu quand on est élu, justement, c'est arbitré et où on met l'argent. Mais en tout cas, ça peut faire partie des solutions.
Oui. Alors, il y a une solution que moi, je propose.
Ouais. Allez-y.
Parce que je suis... Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que Bibus puisse avoir une approche pour que les gens sortent de chez elles, qui partent d'un quartier à l'autre, qui a un service Bibus, qui soit géré par les mairies de quartier? Ça existe dans d'autres...
Ça serait quoi le service exactement?
Eh bien, par exemple, les personnes âgées qui souhaitent aller voir des amis à Lambézelec et qui ne peuvent pas y aller parce qu'elles ont peur de monter dans le tram, elles ont peur de monter dans le bus, elles sont secouées, ça les empêche d'avoir confiance de partir. Donc, si on avait un bus, peut-être d'ailleurs le bus du réseau voisinage qui n'est pas toujours sur la route, hein, et qu'on organise au niveau des mairies ce service-là.
Sur du transport à la demande plutôt,
voilà,
quoi.
Voilà, c'est ça.
Alors, est-ce que c'est possible? Oui. est-ce qu'on le mettra en place? Je ne sais pas, parce qu'au fait, encore une fois, c'est pareil. C'est-à-dire que combien ça coûte, au fait, quoi. C'est ça le nerf de la guerre. Les transports en commun sont déficitaires. De base, c'est déficitaire.
Oui. Je vous arrête, les personnes âgées ne veulent pas avoir tout gratuit. Hein.
Mais j'entends bien, mais nous, on ne veut pas faire tout gratuit non plus.
Ben justement. Je suis consciente de ça.
Mais même en payant, aujourd'hui, par exemple, les recettes du réseau Bibus, de tous les abonnements, de tous les tickets, voilà, ça représente 20% du coût. Voilà. Ça représente 20% du coût. Donc, il y a 80% du coût qui vient déjà de tous les cas, de tous les cas d'ailleurs. Donc, même si on fait payer les gens ce service, le prix, voilà, de soit ils sont abonnés, soit le prix d'un ticket, il faudra quand même trouver les 80% restants. D'accord. Et encore plus sur le transport à la demande, parce que ça coûte encore plus cher le transport à la demande, parce que forcément, ça demande plus d'organisation, ça transporte moins de personnes. Donc on est sur des coûts qui sont assez chers. Donc, c'est à étudier, mais encore une fois, ça fait partie des arbitrages qui sont pas simples et qui sont pas simples quand on fait de la politique. On a envie de dire oui à tout, on a envie de dire bah oui carrément, il faudrait le faire, voilà et compagnie. Mais ça veut dire que si on fait ça, on fait pas autre chose, et si on fait pas autre chose, c'est quoi qu'on ne fait pas. Et là, faut arbitrer. Donc ça peut être une solution, mais c'est pour ça qu'il faut faire des études. Donc on pourrait faire des études pour voir justement.
Alors je pense que c'est lié, excusez-moi, au vivre ensemble. Tous les citoyens ont le droit de vivre librement dans leur ville et en paix. Voilà.
Mais complètement, je partage. Voilà, mais, alors, c'est à ça que se sert le réseau Bibus aussi et le réseau de bus, même absolument. Si j'entends aussi que pour certaines personnes, ça peut poser des difficultés. Quoi, mais...
Alors, la dernière question, c'est une question piège. Est-ce que vous pouvez essayer de faire ce que je viens de dire ?
Ah bah, on peut essayer de voir, oui, complètement. Complètement. Voilà. Non, mais complètement. Moi, si je suis élu, je reviens vous voir en avril et puis on discute un petit peu de tout ça. Il n'y a pas de
c'est
problème.
C'est ce que je vous demande et je ne viendrai pas seul en plus.
Eh bah, très bien. Eh bah, très bien. Pas de problème. Je m'y engage, sans souci. Je vous garantis pas qu'on va y arriver, mais je m'en garantis, je m'engage à vous recevoir en tout cas. Ça, il n'y a pas de problème.
Je vous remercie de votre écoute.
Mais il n'y a pas de souci.
Du coup, bah, pourquoi pas mettre des référents mobilité dans chaque quartier, pour histoire de que tout le monde soit rassemblé avec la mairie, ce SAS, enfin tout ça, quoi. Bah, que tout le monde roule... ensemble, comme elle disait Marie-Jo.
Des référents qui sont élus, des gens qui travaillent, ouais. Qui seraient...
Un petit peu de chaque voilà, domaine.
Ouais, aujourd'hui, finalement, c'est un peu c'est un peu le rôle des adjoints de quartier, au fait, hein, ouais. Des maires de quartier, quelque part. Eux, ils sont là justement pour faire le lien, et c'est une fonction que moi, je trouve assez intéressante. Hein. C'est les adjoints de quartier, ils sont là pour faire le lien justement entre les politiques, tous les élus qui ont une délégation thématique, au fait, que ce soit la question des déchets, la question des mobilités, la question de l'éducation, la question de la participation. Voilà, il y a ces politiques-là qui sont menées à l'échelle de la ville ou de la métropole. Et après, finalement, les agents de quartier, eux, ils sont là pour aussi faire remonter la parole des structures, hein, des MP3, des DMPT, des PATRO, voilà, des habitants directement, en disant bah, là, vous, les techniciens et les élus à telle thématique, vous avez réfléchi à ça, mais moi, quand je discute avec les habitants, ils me disent ça aussi, et donc de faire ce lien et de faire redescendre aussi. Donc, ils font ça sur les questions d'éducation, ils font aussi ça sur les questions de mobilité, hein, ça fait aussi partie de leur rôle.
Et du coup, il y a une trace pour savoir un petit peu toutes les conclusions qui ont été faites là-dessus.
Sur ce qui a été remonté. Oui. Pas forcément, parce qu'après, c'est des réunions internes au fait à la collectivité, quoi. C'est-à-dire que quand il y a des réunions d'adjoints de quartier sur certaines thématiques, bon, bah, les adjoints, ils vont faire remonter. Quand il y a eu la refonte du réseau, là, par exemple, les adjoints de quartier, ils ont été consultés et eux, ils disent, bon, bah, là, vous avez prévu ça, mais moi, j'ai eu pas mal de remontées sur cet arrêt. Si vous le supprimez, c'est quand même assez problématique. Il faudrait le laisser là. Enfin, voilà, quoi. Il n'y a pas forcément de trace écrite de ça, quoi.
D'accord. Merci.
Paris.
Mais des trucs gratuits pour Bibus.
Alors, la gratuité des transports en commun, c'est un sujet qui revient un petit peu systématiquement à chaque campagne des élections municipales. Et c'est un sujet extrêmement complexe. J'étais justement hier et avant-hier à la fac, l'UBO organisait juste l'Institut de géo-architecture des rencontres justement sur ce thème-là. Ils ont fait venir des chercheurs d'un peu partout. Et au fait, la gratuité, faut voir quels objectifs on a derrière, quoi. C'est-à-dire que si on se dit que l'objectif, c'est de réduire la pollution, en se disant, bon, bah, y a plus de gens qui vont l'utiliser et donc ça va permettre de réduire la pollution, on se rend compte que ce n'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que Quand on met en place la gratuité, il y a clairement plus de gens qui vont prendre les transports en commun, mais on se rend compte que ça va être une utilisation d'opportunité, c'est-à-dire des gens qui n'auraient pas fait ce déplacement et qui se disent bah, finalement je vais le prendre. C'est des gens qui utilisaient le vélo, c'est des gens qui marchaient et qui du coup pour faire un arrêt, deux arrêts, vont se dire bon bah c'est gratuit, du coup je vais le prendre. Donc de ce point de vue-là, c'est pas forcément très intéressant. Ensuite, on peut se dire que les personnes pour qui le prix est un vrai frein à l'utilisation, c'est vrai, il y en a un certain nombre, mais dans ce cas-là, il y a la tarification sociale qui existe au fait, qui existe déjà à Brest, qui à mon sens, il faudrait revoir, et ça fait partie des propositions que je porte aussi, c'est-à-dire que sur les coefficients familiaux les plus faibles, là, mettre en place de la gratuité qui n'existe pas aujourd'hui, mais que ça soit vraiment gratuit. Donc ça, c'est une gratuité qui pour moi, a du sens, c'est-à-dire que on est basé sur le revenu, parce que sinon ça veut dire qu'on fait gratuit pour des gens qui n'ont pas besoin de la gratuité au fait quoi. Et dans ce cas-là, on perd 12,5 millions d'euros chaque année, sans doute 15 même cette année avec le nouveau réseau, ça veut dire se passer de 15 millions d'euros. Donc avec ces 15 millions d'euros là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait la gratuité pour tout le monde ? On peut dire OK, hein, y a des avantages à ça. Moi, je ne suis pas contre dans l'absolu, au fait. C'est-à-dire que je trouve que la gratuité, ça marche bien pour des petits réseaux, des petites communes. Ils ont fait ça à Morlaix. Moi, je trouve ça très bien, au fait. Ou là, ils ont plus des problèmes de fréquentation. Donc là, faire la gratuité, bon, bah, ça incite et puis ça fait vraiment y aller. À Brest, on n'a pas de problème de fréquentation. On a plus un problème d'offre. Et je trouve ça plus intéressant d'améliorer l'offre, c'est-à-dire d'avoir des trams qui partent plus tôt, qui ont des bus aussi, quoi. Des bus avec des fréquences plus élevées, avec un meilleur maillage, avoir un tram comme sur le nouveau réseau là, qui est inauguré là en ce moment, d'avoir un tram qui part plus tard pour permettre aux personnes qui vont dans des bars de pouvoir avoir un tram quand on sort du bar à 1h du matin. Bah, ça coûte aussi de l'argent. Tout ça, ça coûte de l'argent. Donc au fait, on en revient à justement, c'est quoi être élu ? Être élu, c'est veiller au meilleur usage de l'argent public par rapport aux objectifs qu'on veut atteindre. Et donc, moi, sur un meilleur usage de l'argent public, avec comme objectif un objectif écologique et un objectif social, qui sont un petit peu les deux objectifs de la mobilité, hein, c'est-à-dire réduire les émissions de CO2 liées à la voiture individuelle et proposer un droit à la mobilité, on l'évoquait tout à l'heure, un droit à la mobilité pour tous, quoi. Et ben pour ça, je suis pas sûr que la gratuité pour tous, ça soit vraiment le meilleur usage de l'argent public. Je pense qu'il peut être mieux utilisé à développer d'autres services. On en parlait aussi, hein, un service de transport à la demande. Bon, ça aussi, ça coûte de l'argent, quoi.
Visiblement, on est arrivé au bout des questions. Du coup, merci beaucoup, Wendell Kigard, d'être venu nous voir aujourd'hui et d'avoir répondu.
Il n'y a pas de quoi. C'était un plaisir.
Pour nous aussi.
Une petite pause avec Nébuleuse, un chœur formé en 2023 par Amandine Godard à Brest, qui en assure la direction artistique.
Yen din man, 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 yen din man.
Maintenant, on va vous parler d'une expérience qu'on a vécue hier soir. On était plusieurs autour de cette table à venir au Fourneau. Il y avait un événement avec Astropolis et qui s'appelait Astro Senior. C'était l'Astro Cocktail de lancement du festival Astropolis. On y était car ils avaient organisé un projet entre Astropolis et VADA, Ville Amie des Aînés. Ils avaient invité 10 personnes de la résidence de Poulard-Bachette et aussi des usagers du Pilier Rouge, du patronage laïque du Pilier Rouge, à créer un projet sonore et musical avec deux artistes trouvés par Astropolis. Et donc, on est allé à leur rencontre, on a écouté leur performance en live et on a pu interviewer deux personnes. On a interviewé Marie-Josée qui a fait partie du projet et Maëlle qui travaille à Astropolis et qui avait créé le projet. Donc on vous laisse tout de suite avec la suite du documentaire.
Est-ce que tu peux nous dire, Marie-Josée, quand est-ce que le projet a commencé et comment il a commencé ?
Ben moi, j'ai eu connaissance du projet par le patronage laïque du Pilier Rouge, donc qui m'a prévenu que pour Astropolis, il y avait donc un spectacle d'organisé avec certains membres de Polar Bachette, de la résidence de Polar Bachette. Et on me demandait si j'étais partante pour faire justement partie de l'aventure. Et j'ai dit oui, pourquoi pas. Moi qui aime chanter et tout ça, enfin l'animation, enfin. Mm-hmm. Et le projet, c'est à partir du mois d'octobre dernier que j'en ai entendu parler par un mail de Juliette.
Et vous vous réunissiez combien de fois par semaine ou par mois pour organiser ce projet-là ?
On avait à peu près 3 jours de répétition par mois entre octobre et jusqu'en début février.
Et est-ce que tu sais quand est-ce que l'album va sortir ?
Non, je n'ai pas de nouvelles concernant l'album. On a eu la visite de TBO, on a eu la visite du Télégramme, il y a eu un article dans le Télégramme aussi.
Et donc les voix qu'on entend dans les enregistrements, c'est des histoires des personnes qui ont participé au projet, c'est ça ?
C'est nos voix, la voix de chacun de nous. Mais il y a certaines voix qui ont été plus ou moins déguisées aussi, ça dépendait, pour rendre plus mystérieux le spectacle.
Donc, tu as parlé d'un gars qui était en pause maladie, là ?
On avait donc un de nos collègues qui avait fait un AVC et qui avait besoin de se remettre. Et puis on s'est aperçu qu'il avait fait de gros efforts justement pour participer et pour être d'attaque pour continuer l'aventure. Parce qu'à un moment, il était un petit peu découragé, il avait peur de ne pas y arriver. Mais finalement, avec son acharnement et puis... avec l'amour qu'il a reçu de ses enfants et tout ça, ça lui a donné davantage de confiance en lui.
Et ben, ce qui a déclenché ce projet, c'est le service Bien Vieillir de la ville de Brest et la résidence Polar Bachette qui nous ont contactés. Ils voulaient faire un projet par rapport à, autour de la musique électronique. Et puis ils ont, je crois, tous les ans un peu une thématique forte. Et cette année, ils voulaient que ce soit la musique électronique. Donc, on s'est rencontrés, on a imaginé qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Et puis on avait deux idées. C'était à la fois de proposer un temps plutôt festif, découverte de DJ, de la musique électronique, et puis un temps un peu plus, on va dire, un temps de résidence avec un groupe de personnes qu'on embarquerait sur de la composition et de la création musicale. Et donc on a fait ces deux projets en parallèle, et puis ça a fini par se rejoindre, et c'est la proposition de ce soir, donc c'est-à-dire en première partie 16 000 fois Hiroshima de System Bang, qui est le fruit d'un travail de plusieurs semaines dans les studios de la Carène, et puis ce temps festif, un peu ouvert à tout le monde, avec un public qu'on voit peut-être pas trop d'habitude sur Astropolis, et voilà, qui découvre, je pense, cet univers aussi ce soir.
Alors, moi, je voudrais te poser une question. Tu as parlé d'une association Bien Vieillir à Brest. Et Bien Vieillir à Brest, c'est VADA, Ville Amie des Aînés. Je pense que tu sais ce que c'est. Voilà. Alors, comment est-ce que c'est toi le metteur en scène ? C'est toi qui as créé ? Oui ?
Alors... Moi, j'ai eu l'idée du projet. Donc, en fait, quand on a vu le service Bien Vieillir, on a on s'est mis d'accord sur un format. Donc, c'était ce format de résidence, de création. Et moi, donc, j'ai proposé des artistes qui me semblaient pertinents parce que ils ont une pratique de la musique et de la fiction qui me paraissait adaptée. Et du coup, moi, je les ai présentés à VADA. qui a aimé l'idée. Et ensuite, on a imaginé avec Antoine et Victor, donc les deux artistes, un peu le cadre. Et ensuite, c'est vraiment eux qui ont amené les participants sur la pratique, le choix des instruments, un peu une thématique forte, le format. Donc moi, j'ai plutôt mis en relation les gens. Et ensuite, eux ont travaillé ensemble pour créer de la musique.
Et alors, ma question, c'est la question donc, du thème. Qui a choisi le thème ?
Ouais, il y avait. Nous, on avait une idée de comment on pouvait. Parce que c'est pas facile de composer de la musique avec des gens qu'on connaît pas. Et du coup, on s'était dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait donner un peu comme indication ? Et c'était ce thème-là qu'on a proposé dès le début de. On est à Brest, il y a une bombe atomique, et ce qui permettait aussi d'inventer plein de choses derrière. Donc ce thème, on l'a un petit peu réfléchi ensemble avec Victor et Antoine comme quelque chose d'assez large qui permettait aussi après à chacun de parler du passé, de parler du futur, de parler d'envie, de choses. Et puis c'était un petit peu aussi l'objectif, c'était d'emmener les participants à imaginer des choses. Et donc leur laisser aussi un peu un cadre qui leur permette de s'exprimer, d'imaginer.
Je pense que c'est quelque chose de réussi, mais qu'il va falloir continuer dans ce sens. Parce que mettre en place quelque chose qui intéresse les seniors, et en tout cas ceux que j'ai vus sur scène, moi, sont plus que des seniors, ce sont des personnes plus âgées qui ont une histoire. C'est pour ça que le thème a été accrocheur, parce qu'elles avaient des choses à dire. Donc, si on pouvait continuer à redonner la parole aux personnes âgées, comme vous l'avez fait ce soir, eh bien, bravo.
Eh bien, merci. Alors, nous, on a... Finalement, faut féliciter les participants, hein, ceux qui ont fait la musique, ceux qui ont joué ce soir. Donc, c'est eux qu'il faut féliciter.
Les accompagnants aussi nous ont aidés à sortir de notre coquille. Et puis même, ça a permis à certaines personnes de se soulager de certains traumatismes. Par exemple, lorsque l'on parle de la bombe atomique, eh ben, ça a rappelé Brest pendant la guerre à certaines personnes. Ou bien l'histoire du Liberty Ship qui a marqué également la vie brestoise. Et il y a même une personne, lorsqu'elle entend la sirène, eh ben, ça l'a touchée profondément.
Que c'est une chose qu'il faut remettre au goût du jour, sur un autre thème peut-être. Mais moi je demande à Ville Amie des Aînés de ne pas garder les personnes âgées comme des invisibles de la citoyenneté.
Et pour conclure cette émission, Clarisse avait un projet à nous proposer pour la MPT. On t'écoute.
J'ai un projet pour mettre un aquarium avec plein de poissons ici au centre social.
Et Clarisse, d'où était venu ce projet?
J'en ai vu un à Quéréderne. Un beau aquarium avec plein de poissons.
Et est-ce que toi, tu sais t'occuper des poissons ?
Oui.
Donc tu pourrais être responsable de cet aquarium s'il y en avait un ?
Oui.
Et bien, c'est une super idée. Et puis, on va la proposer aux membres du conseil d'administration.
Ok, ça marche.
Et voilà, on arrive à la fin de cette émission pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre écoute. Et on se retrouve très bientôt sur les ondes de Radio U et de Gelmer Radio.
Gelmer Radio Spontus.
Gelmer Radio.
Gelmer Radio.
Gelmer Radio.
Gelmer Radio.
Un quartier.
Une vue.
Du rythme et des infos.
De la bonne humeur.
Sur Brest et ailleurs.